18h16, avant de passer à Dr Nadia Gagné, spécialiste des enfants, psychologue, juste vous dire, on m'a envoyé une photo, une épicerie à Chambly, et je ne vais pas dire que c'est la panique, mais il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de monde qui fait des emplettes, et évidemment, tout ça n'est pas étranger à ce qui se passe avec le coronavirus. On dit aux gens de rester chez eux. Je pense qu'il y a des gens qui se préparent à rester chez eux et qui font des provisions. Voilà. Écoutez, il est 18h16. Si vous avez des enfants présentement, même des ados, ça peut être une période angoissante parce que le coronavirus est anxiogène par son sa face même. Ça nous met les êtres humains devant une situation qui n'a pas été vécue, disons, de notre vivant. Des pandémies semblables, là, ça date de beaucoup. Comment on en parle avec les enfants? Comment on en parle avec les enfants sans les stresser, sans leur faire des cauchemars? Bien, Nadia Gagné, docteur Nadia Gagné, psychologue, est au bout du fil. Salut, Nadia Gagné.
Bonjour.
Comment on explique ça aux enfants qu'il y a un virus qui est dangereux, mais que la fin du monde n'est pas à nos portes?
Moi, habituellement, quand je veux parler d'une situation qui est potentiellement anxiogène à un enfant, je commence toujours par lui poser la question sur ce qu'il sait déjà sur la situation. Parce que c'est possible qu'il en ait déjà entendu parler à l'école par le biais de ses amis ou par le biais du personnel scolaire. Donc, ça me guide un petit peu dans qu'est-ce qu'il sait déjà et qu'est-ce qu'il a besoin de savoir. Donc, après ça, je lui demande qu'est-ce que tu aimerais savoir sur le sujet. Parce que si on y va d'un long exposé sur c'est quoi le coronavirus, puis par quoi c'est causé, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en protéger, on risque de surcharger notre enfant d'informations qu'il est peut-être pas prêt encore à assimiler. Fait qu'une bonne loi approximative, je pense que c'est de se laisser guider par les questions que l'enfant se pose ou veut nous poser sur le sujet. Et quand il pose ces questions, il faut y aller avec la vérité, mais à petite dose. Donc, on donne des réponses courtes et on se laisse guider par les questions suivantes que l'enfant va nous poser. Mmh. C'est la façon d'être en phase avec son besoin d'information, dans le fond.
Ça, c'est à tous les âges, Nadia Gagné, ou c'est vraiment là, la petite enfance?
Ben, je pense que en fait, c'est pas mal à tous les âges. En ce qui concerne les enfants peut-être d'âge préscolaire et scolaire, au secondaire, à l'adolescence, ben là, probablement que les adolescents sont plus capables d'absorber l'information, mais en même temps, je dirais que chaque parent devrait y aller avec ce qu'il connaît de son ado. S'il y a une tendance à l'anxiété, je pense que c'est mieux d'y aller un peu avec la même approche que je viens de décrire, en lui disant qu'est-ce que tu sais déjà? Qu'est-ce que tu aimerais savoir sur le sujet? Puis je peux peut-être t'assister dans la recherche d'informations valides. Ah. Parce que les ados, le problème, c'est qu'ils peuvent avoir accès à de l'information exagérée ou s'ils s'informent par le biais des réseaux sociaux, ben là, ils peuvent avoir accès à des fausses nouvelles, puis ça peut empirer leur anxiété. Donc là, c'est de proposer notre aide comme parents sur la recherche d'informations valides.
On peut faire ça même avec les ados?
Oui, je pense que oui. Je pense que, dans le fond, si un ado est inquiet, il va se mettre lui-même de façon autonome à chercher de l'information. Mais le problème, c'est qu'ils connaissent pas toujours où s'informer, comment s'informer adéquatement. Et souvent, ce qui est anxiogène dans une situation, c'est pas ce qu'on connaît, c'est ce qu'on connaît pas. C'est l'incertitude qui va faire tomber peut-être dans la panique. Mais quand on connaît des informations valides sur un danger potentiel, bien, ça nous aide à comprendre qu'est-ce qu'on peut contrôler dans la situation. Donc ça, c'est une aide que les parents peuvent apporter à un enfant ou à un adolescent, c'est d'expliquer une fois qu'on a donné l'information, qu'on a répondu à ses questions, c'est de le rassurer en lui disant, bon ben les médecins, leur mission, c'est de savoir comment nous soigner. Ils ont des moyens pour nous soigner. Mais notre mission à nous, à tous les citoyens, c'est d'écouter les consignes qui nous arrivent et qui peuvent changer de jour en jour pour savoir comment limiter la propagation du virus. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. C'est un pouvoir qu'on a entre nos mains. Donc, quand on a un sentiment de pouvoir contrôler quelque chose face à une situation anxiogène, ça donne un sentiment d'efficacité personnelle. Et ce sentiment-là, pour n'importe quel problème d'anxiété, normalement, c'est quelque chose qui vient diminuer la réaction anxieuse. Je dirais pas qu'il faut l'amener à zéro, la réaction d'anxiété, parce que L'anxiété, on l'oublie, on entend beaucoup parler de troubles anxieux, puis ça sonne psychiatrique, puis ça fait peur, mais ça nous fait oublier que l'anxiété est une émotion normale et saine quand on fait face à un danger réel. C'est ce qui nous amène à être vigilants, puis à se questionner sur des moyens de protection. Donc, c'est ce qui se passe présentement. On fait face à une menace qui est réelle. Il faut s'informer auprès de sources d'informations valides pour savoir comment être plus rationnel face à cette menace-là, savoir comment y réagir et comprendre en quoi elle consiste cette menace-là. Mmh. Là, c'est nous, en tant qu'adultes, qu'on doit faire ça. Puis maintenant, cette information-là, bien, il faut la filtrer pour nos enfants et nos adolescents en fonction de ce qu'ils sont capables d'absorber. Et le meilleur guide pour savoir ce qu'ils sont capables d'absorber, c'est leur questionnement. C'est d'ouvrir le dialogue et de leur dire, bien là, pose-moi tes questions, je vais te répondre au meilleur de ma connaissance. Puis, si je peux pas te répondre, ben je vais chercher pour toi cette information-là. Mais,
Dr. Gagné, reculons un petit peu. C'est intéressant ce que vous avez dit, d'expliquer aux enfants que la mission des médecins, c'est de nous soigner, etc. Mais que nous, on peut avoir une mission. Donc, de dire aux enfants, toi, ta mission, là, pour faire ta part, par exemple, c'est de ne pas partager ton lunch, c'est de nettoyer tes mains tout le temps, etc. Ça, ça peut donner un sens de pouvoir sur la situation à l'enfant?
Oui, du moins pour ce qu'il est capable de faire, en fait. C'est oui. De dire, ben si on tombe malade, là, il faut avoir recours à quelqu'un d'autre, qui est le médecin ou les gens du système de la santé. C'est de ne pas faire paniquer l'enfant. Dans le fond, moi, je dirais à l'enfant, les médecins savent comment nous soigner si on a ça. Mais nous, notre mission, c'est de faire en sorte que tout le monde soit pas malade en même temps. Puis ça, on a un pouvoir là-dessus, et c'est les mesures d'hygiène. Puis souvent, avant même d'expliquer à l'enfant c'est quoi, moi, j'aurais tendance à lui dire, c'est quoi qu'on fait toute l'année pour éviter d'avoir le rhume ou de donner notre rhume à quelqu'un d'autre. Souvent, les enfants à la garderie apprennent à tousser dans le coude ou à éternuer dans le coude, dans le pli du coude, à se laver les mains. Ils ont même des fois appris des petites comptines à la garderie sur toutes les étapes de comment bien se laver les mains. Donc, si c'est l'enfant qui nous dit comment faire, ce qu'il sait déjà, on le met en contact avec son sentiment d'efficacité personnelle. C'est encore mieux que si nous-mêmes, du haut de notre âge adulte, on le moralisait, on aurait un discours moralisateur lui disant « Tu sais, on doit se laver les mains de telle ou telle façon. » Quand on donne la chance à l'enfant de fournir ses propres réponses, ses propres solutions avec son propre raisonnement, ben on le met en contact avec son sentiment d'efficacité personnelle, puis ça aide à gérer, à amener l'anxiété à un niveau qui est gérable, en fait.
Et la pire chose à faire comme parent avec son enfant en cette ère d'angoisse au coronavirus, c'est quoi?
C'est de mentir ou de limiter l'information alors qu'il en demande. Si on lui dit non, faites-en pas, il n'y a pas de danger, tout va être correct, mais s'il y a des indices à l'extérieur de la maison familiale qui lui indiquent que c'est pas si correct que ça, là. Il y a des choses que les gens font autour de moi. Il y a des enfants qui se font retirer de la classe. Il y a des gens qui sont à quarantaine. Et ça va créer un sentiment de manque d'information qui va être encore plus anxiogène que de connaître la vérité. Mmh. Donc, il faut pas banaliser. Puis en même temps, ben à l'inverse, je pense qu'il faut pas paniquer non plus. Il faut pas sombrer dans la panique et d'exagérer la peur en disant que c'est sûr qu'on va l'avoir, que c'est dangereux de mourir. C'est une vraie réponse de psy que je vais vous donner, là, c'est de trouver l'équilibre entre ces deux extrêmes-là, ce qui n'est pas évident même pour nous comme adultes, parce que les informations qu'on obtient et sur les mesures qu'on doit prendre contre ce virus-là changent à peu près d'heure en heure présentement. Donc, c'est pour ça que je dis, dans le fond, de rester en contact avec l'information, de s'accrocher à des sources d'information qui sont valides. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour le moment.
Très bien.
Et de suivre les conseils.
Merci beaucoup, Dr. Gagné.
Merci à vous.
Merci. Nadia Gagné, psychologue, vous la connaissez bien, qui intervient régulièrement dans les médias sur les questions qui touchent les enfants. Donc là-dessus, je vous dis que Québec n'a pas changé d'idée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mot d'ordre pour fermer les écoles. Il y a des écoles, par contre, qui sont fermées, donc vérifiez bien ce soir et demain. Merci d'avoir été là. On se retrouve même heure, même poste. Je cède l'antenne à nos amis, des amateurs de sport.